Je m'appelle Éric Marissal, je représente le syndicat des écloseurs-nurseurs. Il faut savoir que le syndicat des écloseurs-nurseurs existe depuis plus de 20 ans. C'est un syndicat qui regroupe la totalité des écloseurs, la totalité des nurseurs français. Je vais commencer par quelque chose qui justifie l'existence des écloseries. Il faut savoir qu'une des règles fondamentales de l'élevage, c'est qu'il est impossible partout sur la planète d'élever des animaux sauvages. Pour quelle raison? Un animal sauvage, c'est un animal qui est fait pour survivre et se reproduire. Il n'est pas fait pour être manipulé par l'homme. Sa génétique ne le permet pas. Ça lui permet simplement de s'adapter à son environnement, à chaque reproduction.
S'il vous plaît, nous aurons un temps de débat. Donc, écoutons attentivement Monsieur Marissal. Et puis après, on discutera. Donc, Monsieur Marissal, vous avez gagné 30 secondes.
Je représente le diable dans cette assemblée.
Non, vous ne représentez pas le diable. Vous parlez. Nous nous écoutons tous. Voilà. Et voilà, on reprend l'exposé, on vous écoute attentivement, et après on discutera, c'est promis. Voilà.
Or, l'élevage de l'huître existe depuis des siècles, et on a pu constater, par exemple, pour la portugaise, qui a été importée au Portugal il y a 3 siècles, que son élevage a disparu dans les années 72. À l'époque, il n'y avait pas d'écloserie. L'huître plate, qui était l'espèce endémique en France et qui était exploitée depuis plus de 2000 ans, a disparu des élevages dans les années 20. Aujourd'hui, on élève de la crasse austria gigas et on commence à rencontrer, après 4 décennies, il faut savoir que l'huître japonaise est en France que depuis 4 décennies, c'est quand même pas une espèce endémique du littoral européen. Eh bien, après 4 décennies d'élevage, on commence à rencontrer à nouveau des problèmes de pathologie, puisqu'on a d'abord eu un souci il y a 7-8 ans avec l'herpès virus et maintenant avec une bactérie qui décime les adultes. Quelle est la solution? La solution, quand on pratique l'élevage, et c'est ce qui s'est pratiqué sur le saumon, qui est la dernière espèce domestiquée, sur la crevette, qui a été domestiquée juste après le saumon, et aujourd'hui on passe aux mollusques. Quand on veut élever des mollusques avec des vraies techniques d'élevage, c'est-à-dire c'est ce que fait l'ostréiculture, depuis les années 80, les ostréiculteurs ont développé des techniques d'élevage sensu stricto, contrairement par exemple à la mytiliculture, où les moules sont élevées, sont reparquées, sont captées, reparquées, pêchées, on vend les grosses, on jette les petites. En ostréiculture, on a largement dépassé ce schéma de production, et donc qui dit élevage dit domestication. C'est la raison pour laquelle dans les années 75, au même moment que l'introduction de la gigasse en France, de la nouvelle espèce d'huître en France, dans les années 75 se sont créées les premières écloseries dont l'objectif était simplement de maîtriser la reproduction des mollusques, maîtriser la reproduction des huîtres, de façon à permettre la domestication des animaux en vue d'un élevage durable. Ensuite, on parle de triploïdisation et de triploïdie. Il faut savoir aussi que la triploïdie, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 10 ans, ni 15 ans. C'est quelque chose qui existait dans les années 70. Dans les années 70, Bernard Chevassieu, lui, et son équipe de l'INRA de Juan-Josas ont mis au point les truites 100% femelles stériles. Il s'agit de truites issues de mâles tétraploïdes, croisées avec des femelles diploïdes, qui sont 100% triploïdes. Le même schéma que la triploïdisation des truites a été appliqué aux huîtres. Et dès la création de l'IFREMER, le premier programme de recherche de l'IFREMER en génétique portait sur la triploïdisation des mollusques. Donc c'est quelque chose qui a débuté dans les années 80 et qui s'est développé dans les années 90. Dans les années 90, l'idée de la triploïdisation des huîtres a été reprise par tous les pays du monde, et notamment les Américains, qui ont été plus rapides que les Français pour breveter une technique fiable d'obtention de 100% triploïdes. Bon. Il faut savoir que l'huître triploïde existe naturellement dans le milieu naturel. C'est-à-dire que quand on scanne une quantité suffisante de juvéniles sauvages, on trouve systématiquement des huîtres triploïdes. C'est connu depuis tout temps. C'est valable pour les mollusques, pour toutes les espèces de mollusques. Donc la triploïdisation a été possible à partir du moment où on a eu la capacité de produire 100% d'huîtres triploïdes. Ça s'est développé dans les années 99-2000, et dès les années 2001, des questions se sont posées, bien entendu, des questions d'éthique sur l'utilisation de ces triploïdes, qui ont été prises en compte par les représentants du ministère, et des études ont été menées, notamment 2 rapports, qui ont été menés pour voir s'il y avait un risque à utiliser la triploïde dans le milieu naturel. Ces études ont conclu à un risque mineur. Par contre, ont été mises en place à l'époque des mesures de biovigilance, qui d'ailleurs ont été financées par les écloseries du moment, qui produisaient des triploïdes. La recommandation était de faire une analyse tous les 2 ans sur du naissin naturel de Marais-Noléron pour vérifier si on trouvait des individus qui pouvaient être issus du croisement entre les souches sauvages et les souches triploïdes élevées dans le bassin. Les résultats aujourd'hui sont apparus au bout de 15 ans. On n'a jamais pu démontrer une quelconque influence de la triploïde dans la reproduction naturelle des huîtres. On a même, dernièrement, l'année dernière, trouvé dans l'essaim naturel une triploïde, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque on sait très bien que ces mollusques produisent naturellement des triploïdes. Aujourd'hui, on en est où? On parle d'étiquetage des triploïdes. Moi, ce que je vois, c'est que si on regarde franchement la situation au niveau national et international, on constate que les huîtres qui sont exportées actuellement dans les marchés lointains, sur la Russie, sur la Chine par exemple, sont des huîtres triploïdes et elles sont considérées par les Chinois, par exemple, elles sont vendues 6 euros pièce, sont considérées par les Chinois comme des produits de luxe français. Si vous regardez aujourd'hui toutes les grandes maisons de production qui produisent des huîtres haut de gamme, vous avez par exemple des maisons comme Tabouriège, des maisons comme David Hervé, comme Gilardot, comme Cadoret, qui sont des grands exportateurs, mais aussi les principaux distributeurs des grandes brasseries parisiennes, ils n'élèvent que des triploïdes. Même les ostréiculteurs traditionnels mettent dans leur publication que sur leur marché touristique de l'été, si un professionnel vend des triploïdes en phase 2, ils ont du mal à vendre leurs produits sauvages. Donc il faut quand même constater que d'une manière parfaitement objective, aujourd'hui, d'une manière
s'il vous plaît.
Il faut quand même constater aujourd'hui que d'une manière parfaitement objective, quand on parle de haut de gamme, quand on parle d'exportation, quand on parle de produits à grande valeur, on parle de triploïdes. Alors l'étiquetage, pourquoi pas? Aujourd'hui, le comité national n'est pas favorable parce qu'effectivement, ça pose un très gros problème de mise en œuvre. Bon. Mais l'étiquetage, pourquoi pas? Mais moi, je dis qu'à partir du moment où, la responsabilité va être prise de décider un étiquetage des huîtres triploïdes, il faudra quand même prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, sans étiquetage, le consommateur a plébiscité cette huître un peu partout dans le monde.